tutrice qui lui avait écrit.
C'est l'institutrice qui lui avait écrit.
Oui, oui.
Ah oui.
Ah oui. Ah puis, j'en avais entendu un, des monologues, pour un théâtre, au Grand Zenon. Puis ce monologue, je l'ai retrouvé chez une marchande de musique. Je l'avais retenu, mais à moitié, quoi. Je ne pouvais pas le dire complètement. Puis j'ai retrouvé ce monologue dans un magasin de musique.
Et alors, ces monologues, comment vous les procuriez alors? Si par exemple, on les trouvait dans les magasins de musique alors, les monologues?
Ben oui, des fois, oui.
Ah oui.
Il y en avait, j'étais une fois à Lyon, il y avait un patron du café, il disait une prédication de curé, puis j'avais ben dit de m'y copier, hein, mais c'était rigolo. Ben, c'était rigolo, mais...
Et les autres, ça se faisait souvent ici dans la région de dire des monologues.
Il n'y a pas beaucoup qui en savent des monologues. En principe, ceux qui chantent, ils ne disent pas des monologues. Rarement, ils chantent.
Mais par exemple, comme Gégène, lui, il savait des monologues.
Ah oh oui, ah oh oui.
Et par exemple, Henri Culat de Henri Garlamiche de la Marine, oui. Il connaissait des monologues.
Lui. Il chantait.
Et il chantait.
Oui, il chantait.
Et
Henri Garlamiche chantait.
Ah oui, il fait partie. Il chantait grand chose.
Puis L'Oriot aussi.
Et il chantait des chansons qui étaient tristes, des chansons qui étaient drôles.
Oh non, j'ai chanté.
L'Oriot
aussi chantait. Mais ce qui amusait bien aussi, ce qui amusait encore le mieux, il y avait Gégène, il amusait pas mal. Mais ce qui amusait le mieux, c'était Léopold Cambuset.
Ah oui.
Ah ben lui,
Il disait.
Oh oui, puis chantait bien.
Ah oui.
Puis chantait des chansons rigolotes.
Ah
oui. C'est pas. C'était un petit joueur de violon. Il jouait pas comme Henri, oh, ben penses-tu. Si Henri avait joué comme ça dans le temps. Ah mais là, l'Henri au pigard l'a mis, c'est les autres ne voulaient rien changer du tout.
Je jouais, tu vois, c'était ça, mais il y avait plein de rythmes, plein de cadences, comme il était ça, gnagnaté.
Ah oui, oui, c'est le père Badinet.
Et puis, là, je voulais vous demander, pour les noces, vous alliez jouer loin, vous étiez demandé loin pour les noces?
Ah oui, encore, oui. Oui.
C'est-à-dire, vous alliez jouer, par exemple, de quel côté vous alliez
Oh oui, j'étais demandé loin encore.
Vous alliez à Cousance Est-ce que vous alliez du côté d'Orgelet, par exemple?
C'est de l'argent.
Ben, c'est-à-dire, en principe, on se tenait dans la région, parce que dans les autres pays, il y avait d'autres musiciens.
Ah oui.
Il fallait être connu par des amis. Et puis... savoir que ce qu'on était capable de faire, parce que maintenant, c'est pas pareil. On prend un musicien pour une note, il faut qu'il joue. Il faut pas qu'il s'amuse à discuter. Ah non. Mais autrefois, on prenait des gugus, des rigolos, pour s'amuser, voilà. Voilà,
on prenait. Vous en avez fait combien de
notes? Ah, je vais en avoir fait une sixaine, quand même. Puis, j'avais pas toujours le temps, parce que j'étais placé. Alors le patron ne voulait pas me laisser partir.
Quand vous étiez domestique, ça?
Ah oui, ça arrivait après, mais même étant domestique.
Ah oui.
Une fois, j'étais au foin à Graveleuse. Ben, j'avais demandé, j'étais au foin à Graveleuse, j'étais journalier. Alors les foins, ça ne servait pas. Alors j'avais demandé au patron, je lui ai demandé pour faire une noce à la Biolay. Ben, il m'a bien laissé aller. Alors le samedi, le dimanche... Et puis lundi, j'étais encore tout malade.
Et là, quand vous êtes revenu au pays, là, après avoir quitté Lyon, qu'est-ce que vous faisiez comme métier?
Ben, j'ai travaillé cultivateur.
En revenant ici?
Oui.
Ah ouais.
J'allais à la journée. Je suis resté un an. Après ça, je m'étais replacé.
Ouais.
Était replacé.
Et
seulement,
comment ont été toutes les touches offertes, il n'y a que moi qui n'ai pas été. Ouais. Qu'une année.
Mais, attendez.
Alors, il y a souvent que j'étais pas ici. On ne pouvait pas me demander.
Acrécia,
bon, j'étais demandé pour les mois de mai, j'étais demandé pour les masques. Alors, à un moment donné, j'étais absent. Évidemment, toute cette histoire de routinier en 1935, ça a été tout mis à la réforme. Il n'y a que ceux qui connaissaient la musique qui pouvaient faire les balles.
Et vous, une fois que vous avez appris la musique, est-ce que vous jouiez pareil qu'avant, quand vous jouiez par exemple des balles, quand vous jouiez des airs, est-ce que ça a changé votre manière de jouer les vieilles rengaines par exemple?
Et la
manière dont, par exemple...
C'est-à-dire que étant musicien, ça me permettait de jouer sur toutes les tonalités. Alors, si je me trouvais avec un routinier, je prenais sa tonalité.
Et vous jouiez, quand vous jouiez des airs de routine, est-ce que vous jouiez de la même manière qu'avant, quand vous jouiez Ça a changé votre manière de jouer?
Oui, beaucoup.
Parce qu'avant, vous jouiez comment pour les airs de routine?
Je jouais droit, toujours sur le même temps. Je jouais droit. On ne faisait ni dièse ni bémol, on jouait comme...
Est-ce que vous faisiez...
Si on avait fa naturel, fa dièse, on faisait deux fois,
Est-ce que vous faisiez vibrer vos doigts, là? Vous faisiez trop aller?
Non, à l'époque, non. On jouait pas si bien que toi. À l'époque, je t'aurais entendu jouer, je voulais. Si Baron de Rosé avait joué comme toi.
Oui, et là... Après, quand vous êtes revenu de Lyon, alors vous continuiez à être dans les
terres? C'est-à-dire que quand je suis revenu de Lyon, je me suis placé. J'étais un an, j'allais à la journée, d'un côté de l'autre, puis ça m'embêtait. Je m'étais placé à Lyon dans une usine. J'ai travaillé jusqu'à la guerre, 7 ans. Après ça, je suis revenu en convalescence, je suis retourné à l'usine jusqu'à l'occupation des Allemands en 43.
Et après, qu'est-ce que vous aviez fait après la guerre? Vous avez fait quoi alors? Vous avez continué à travailler dans l'usine de Cousance ou...
Après la guerre, les patrons étaient arrêtés comme collabo. Ils avaient remis un directeur, puis... Moi, je travaillais à mon compte. Je fabriquais des chevilles. Des chevilles, puis je faisais le coiffeur. J'avais pris, étant jeune, le métier de coiffeur. Mais les parents ne pouvaient pas m'acheter un salon de coiffure. Alors, j'étais obligé de travailler ailleurs, puis faire le coiffeur à part.
Et ça, c'est... est-ce que vous faisiez le rémouleur aussi? Parce que... Est-ce que vous aiguisiez les couteaux?
C'est-à-dire à l'usine, je travaillais sur une machine. Seulement, j'ai aidé un affûteur là-bas, qui était âgé. Puis, à ce moment-là, les retraites n'étaient pas instituées. Alors, il avait déjà 60 ans. Alors, j'allais lui donner la main. Alors, ça m'a permis, pendant la guerre, au lieu d'aller travailler chez les Allemands, puis aller au maquis, je ne pouvais pas, parce que j'étais réformé. J'étais réformé pour des raisons de santé. Alors je faisais mon maquis moi-même. Alors j'aiguisais des ciseaux. J'allais en bicyclette, parce qu'on n'avait pas d'essence. Et je les rapportais. Je les aiguisais, je les portais. Et je faisais attention de ne pas me faire ramasser. J'étais recherché deux fois par la gendarmerie.
Ah oui, parce que vous
n'aviez
pas le droit de faire
ça. J'étais STO. Je devais aller travailler en Allemagne. Quitter l'usine au mois de novembre 1942, quand le traître Pétain nous avons dû à Hitler pour 70 000 Français pour aller travailler en Allemagne. Pas question.
Et après la guerre, vous avez continué à visiter?
Alors, les clientes m'ont resté.
Ah oui.
Et Maintenant, ben, je continue encore. Ouais. On utilise des ciseaux. Et je vais. On est demandé dans bien des endroits, ouais. Comme on représente maintenant des anciens métiers.
Et là, donc après tout ça, vous avez. Il y a eu le club de troisième âge finalement avec les.
Après avec ça, les anciens... évidemment. L'histoire des routiniers, ça revient, puisque dans les clubs, la moitié du temps, il y a des vieux accordéonistes, des vieux routiniers, violents, ou bien qui se mettent à jouer dans les clubs, alors, évidemment.
Est-ce que vous connaissiez Victor Dago avant
Bien sûr que je le connaissais, mais il ne jouait pas de l'accordéon, puisqu'il avait une grosse ferme, il avait deux bonnes et deux commis. Alors, il n'avait pas le temps de jouer de l'accordéon.
Ah. Et vous avez jamais joué avec lui avant
Non, je savais même pas qu'il jouait de l'accordéon.
Il jouait avec, quand il était à Marval, avec un ami Valentin.
Ah oui.
Il était arrivé comme circuit de rang. Un petit.
Et puis, Dago, vous l'avez rencontré au club de troisième âge, alors?
Oui.
Ah. Et c'est là que vous jouiez avec lui Vous avez joué avec lui.
Alors, ce que j'ai fait, dans le temps, je ne pouvais pas le faire. Seulement maintenant, ben, j'ai deux clarinettes. J'en ai une en si bémol, puis j'en ai une en luth. Alors, pour jouer avec les routiniers, ben, il y a des fois, je les porte les deux, parce qu'ils achètent un accordéon diatonique, ça dépend. Des fois, les temps là, des fois, les temps en fa, des fois, les temps en do. Alors, ça m'évite la transposition. Mais étant routinier, ben on peut pas s'adopter comme ça. On connaît pas le.
N'avait pas tiré la panne de chat.
Ah oui, la clarinette, on l'appelait la panne de chat.
La clarinette barrue.
La panne de chat, oui.
C'était
la panne de chat. Puis il y a des Bressans qui l'appelaient la yeuta.
Ah oui.
La yeuta.
C'était le terme panne de chat. Il y en a beaucoup qui disaient la panne de chat ici.
Ah oui, parce qu'il avait entendu dire ça à Brun.
Oui, c'est Brun qui avait inventé. Quand on appelle la clarinette barrue.
Oh non, on n'y est pas ça. Puis les Bressans, ben, l'appelaient ça Nayoto.
C'était Eugène Brun qui avait trouvé le mot, ou est-ce qu'il existait déjà avant le mot panne chat? Ah, vous savez pas.
Ben, tu vois,
c'est qu'il y en avait un autre à Montagnard qui jouait, nommé Gagne.
La palais, ben, qui jouait une étarrure. C'est un armure, mais c'est un routinier. Ben, il paraît qu'il se conduisait à sa canne. Il trouvait son chemin, se conduisait quand même qu'il n'y voyait pas clair.
Il jouait de quoi?
Du violon, il était violoniste. Ah oui, puis il se connaissait bien avec le père Bérard Lamarre qui est mort. Mais rien qu'à la voix, il connaissait le père Bérard. Ah oui. Le directeur ne l'a vu.
Bon ben on a terminé avec vous alors Paul, on va passer un peu Henri là. Alors ça s'est passé comment la première fois?
Oui, ben tu vois, on était bien amis avec les Badinets. Les Badinets c'était presque tous des violonistes, de bons routiniers. Puis mon père y allait souvent, puis c'était en 1911, oui, au début de la guerre, quoi, premier temps de la guerre. Je vois arriver mon père avec ce violon, il avait acheté ce violon, il avait déjà payé un bon prix, mon père, j'ai entendu dire, j'avais dit. Il avait déjà payé 30 francs ce violon, ben, avant la guerre de 14, ça faisait 10 ou 30 francs. Ah oui, puis ce violon-là, ben, le père Badinet, il l'avait acheté au marché aux puces. C'est lui qui l'a tout monté, il n'y avait ni corde, il n'y avait rien. Après, c'est lui, ni clé, ni rien, c'est lui qui l'a tout monté. Eh bien, ce violon-là, c'était un Antonio. Antonio, c'est un luthier italien. Ah oui, un luthier italien. Puis c'était marqué dedans, c'est en 1720. C'était de 1720. Puis il était en deux pièces dessous. Hein, en deux pièces dessous, puis rien qu'une pièce dessus. En deux pièces dessous, mais sonnait bien. un son clair. J'étais un peu décollé, mais par derrière, mais ça n'empêchait pas de. Ça n'empêchait pas de jouer, ça n'enlevait pas le son. Oui, oui. Oui, ben bon, ça c'est que. Puis tu vois, ce violon-là, ben, j'aurais dû le garder parce que. C'est peut-être, ben, peut-être un violon d'artiste. Oui, c'est peut-être un violon d'artiste. Puis, ben, j'ai bien revendu, moi, comme un âne. à Léon Béret, qui était violoniste aussi, pour une de ses belles-sœurs. Puis c'est sûr qu'elle a, elle a toujours la belle-sœur. Hein. Si on pouvait savoir, je serais content qu'on aille la voir. Parce qu'elle est toujours, de ce monde, la sœur à la femme à Béret. Parce que la femme à Béret a 83, 84 ans par là, mais elle est toujours de ce monde. C'est la marraine à la Lucie. Parce que ma soeur Lucie, ben, Léon Béret, c'était son parrain.
Ah oui. Et là. Léon Béret, il était. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier, lui?
C'était instituteur.
Ah oui.
Un instituteur. Ben oui, puis sa femme était institutrice aussi, ils étaient instituteurs tous les deux. Elle avait été, avant d'être en retraite, ben, il était instituteur à Ménal. Mm-hmm. Oui, ça fait que je lui ai vendu. J'ai vendu ce violon. 70 ans, après j'avais plus de violon. Puis, j'en avais été racheté un à la forêt chez des Buissons, par là chez Léonide Buisson, une sarté, qui sonnait comme un sabot. Hein, non, puis ce violon-là, je ne l'ai pas gardé non plus. Je l'avais revendu à Émile Martin à la mare, c'était mon conscrit, je l'ai gardé un bout de temps. Puis quand j'allais veiller là-bas, ben. Je jouais quelques fois, puis ça en venait un tout grand nom, un nommé Roger Croissard, qui jouait. Il jouait bien, Roger Croissard. Hein. Ah oui, on le voit toujours jouer, il jouait déjà, comment déjà, Cœur de Lilas. Ah oui, il jouait bien. Ça fait que, bon, puis après ça, ben, on n'avait encore plus de violon non plus. Ah, puis. Oui, et puis après, ben, j'avais une cousine qui était fiancée, puis son fiancé a été tué pendant la guerre. Il était violoniste, un violon entier, Salvador. Ça fait que j'ai hérité ce violon-là qu'elle m'a donné. Oui, et puis longtemps après, bon, très longtemps après, une quinzaine d'années, ben, et une de mes cousines qui m'en a donné un trois quarts, qui sonne nettement mieux. Ah oui, puis depuis, ben, j'ai toujours ces deux violons.
Ah oui.
Je joue tout le temps avec le petit, parce que j'ai mieux la main avec le petit, il n'est pas si long. Hein.
Ah oui.
Ah oui.
Et alors là, vous pourriez expliquer un petit peu plus comment vous avez appris là?
Ah ben, c'est pas question de ça que j'ai appris. J'ai appris tout seul, jamais personne ne m'a fait voir, non.
Parce que le père Badinet, il venait chez vous, alors?
Non, mais il ne m'a jamais fait voir. Oh ben non, il n'a jamais essayé de me faire voir, il ne m'a jamais dit, tiens, joue comme ci, joue comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Ça, il ne m'a jamais fait voir, il venait, il jouait, il regardait jouer. J'ai appris sur les autres, sur les autres musiciens. J'ai vu jouer, les danses qu'ils jouent, et ben je les joue comme... Je l'ai réentendu jouer.
Ah oui.
Ah oui.
Et vous avez beaucoup appris en regardant alors.
Ah oui, oui, oui.
Ah oui.
Oui, oui, mais j'ai mis du temps. J'ai peut-être pas mis, pas du 30 ans, mais il va un peu fort. Mais j'ai pas mis 15 ans pour dire que ça rime, tu vois. Je jouais. Tu voyais bien que c'était ça, mais il n'y avait point de détaché par notre. Ah non, ça ne rimait pas. Tu aurais dit que c'était.
Pour apprendre, pour voir les autres, comment ça se passait? Vous alliez les voir chez eux ou...
Non. Ah ben, quand j'allais chez eux, qu'ils se trouvaient de jouer. Ils regardaient jouer, mais j'allais, pour dire pas exprès, une fois, chez le père Badinet, ben, il avait porté mon violon pour qu'il me fasse voir. Tu vois, ben, il n'avait pas resté à la maison, j'étais sauvé. Ah oui, mais il tenait pas de me faire voir, ah ben non, Il venait là, je faisais jouer tous les coups, toutes les fois qu'il venait, je faisais jouer. Il voulait jamais venir sans je faire jouer.
Parce que c'était un routinier, lui, le père Badinet.
Ah oui, oui, oui. C'est un routinier. Il connaissait de la musique, il n'y connaissait rien du tout. Il connaissait les notes, mais du baryton puis du piston.
Ah oui.
Ah, oui. Là, il connaissait le solfège, mais il mettait une heure pour déchiffrer une note.
Et il faisait danser le père Badinet, hein? Aussi. Il faisait danser le père Badinet.
Oui, quelquefois, mais pas tellement, tu vois. Pas tellement le plus qu'il allait faire danser pour les fêtes. Les fêtes, les notes, ben, c'était Leonid Bérard. Il me disait ben, qu'il ne jouait pas bien. Il me disait, il ne joue pas mieux que toi. Mais c'est Bérard qui allait jouer les notes, les fêtes, puis tout. Puis Jules Badinet qui jouait tellement bien, ben, restait au devant. Mais parce qu'il faisait. Il faisait trop des pattes. Oui, oh, je ne sais pas qui jouait. Il jouait bien, il ne faut pas dire, mais on préférait Leonid Bérard. Tu vois, ben.
Et ça, c'est en quelle année que vous avez commencé à apprendre le violon alors?
Oh, par là, tu vois, à 11 ans.
Ah,
ouais. Mais au début de la guerre, oui. Au début de la guerre.
Et votre père, il était d'accord pour que vous appreniez le violon? Ça ne l'embêtait pas, lui?
Oui. Il était d'accord sûrement parce que seulement il ne voulait pas l'acheter le violon.
Ah, oui.
Il ne voulait pas l'acheter. Puis il m'a jamais, mon père m'a jamais dit, mon père ne causait pas tant que ça. Il m'a jamais dit, je vais t'acheter le violon Jules Badinet, veux-tu jouer du violon? Il ne me l'a jamais dit. Je le vois arriver un jour avec le violon sous le bras. Avec le violon sous le bras.
Ah, oui. Comment ça se fait que vous avez eu envie de jouer du violon et pas de la clarinette?
Non. Moi, je suis plutôt porté. Je suis plutôt porté sur le violon que sur la clarinette. La clarinette, c'est pas dit, j'aurais pas joué, mais je suis porté sur le violon. Mais voilà, Paul lui, ben, le violon n'a jamais rien pu déchiffrer. J'ai prêté un coup, j'avais gardé deux acres ici. C'est toujours pareil. Ah, c'est pas comme ça que ça va. Puis, j'ai une nièce, la Martine, la fille à Marc, elle me voyait jouer parce que quand j'allais chez eux, je le portais le violon. Tu vois, je le portais quand j'allais chez eux, le violon. Ben, elle me voyait jouer. Je croyais que ça allait tout seul. Elle me l'a emprunté, elle a gardé un an, n'a rien pu déchiffrer, rien. Dans le tabernacle, puis j'avais encore mon neveu, celui qui est marié avec ma nièce depuis Morel à France. Pour que ça soit n'importe quel instrument, que ça soit accordéon, clarinette, violon, il faut 10 ans. Ah oui, mais moi j'en ai bien mis 15. Ah oui. J'avais pas le coup d'archer, oh non. Si ça jouait vite, ben, si je n'ai pas les notes, ben, je ne pouvais pas y arriver, mais c'est que maintenant, c'est plus pareil. Ah oui.
Et là, comment vous avez.
Mais autrement, je jouais bien ici les bars d'ici. Les bars de grange, mais je n'ai jamais joué une fête.
Vous n'avez jamais joué aux fêtes?
Oh non, puis ni une autre, puis rien, parce que je ne pouvais pas jouer comme je joue maintenant.
Ouais.
Oh non.
Mais comment vous. Les autres, est-ce qu'ils détachaient les notes, ceux qui venaient jouer là?
Ah ben. Oui, mais plus ou moins, pas comme moi. Hein.
Pas tous?
Non, leur coup d'archer avec le mien, c'était pas pareil, c'est comme moi, ben. Jules Badinet, il avait bien beaucoup d'archer, mais. Mais encore pas le même coup d'archer que moi. Hein.
Ouais.
Tous les musiciens de Brest qui jouent, ils jouent pas mal, faut pas dire. J'ai Jean-Paul Lévy et les autres qui viennent. Ils jouent bien, mais ils n'ont pas le même coup d'archer que moi. Hein. Non, c'est que le coup d'archer fait gros. Hein.
Ah, oui.
Puis, quand je joue, il y a des fois que je l'enlève dessus des cordes, l'archer. Ils n'y font pas, il y a des fois que je l'enlève. Ah oui.
Et là, c'est les autres. Vous avez appris ça comme ça, pour jouer la mer, il faut...
J'ai appris tout seul. Jamais ouais. Personne ne m'a fait voir. Ouais. Jamais. Mais tu dis, Roger, t'as ma bain, tu vois. On me dit, c'est bien dommage que tu ne connais pas le solfège. Je me dis, oui, parce que j'aurais connu le solfège. J'aurais pu tout jouer. Mais c'est pas si j'aurais pu jouer comme d'autres, tu vois. Parce que pour aller dans les gules, c'est bien les notes. Mais pour les faire dans les gueules, c'est du mal. Hein. Il faut que les doigts glissent bien. Si j'ai les doigts un peu humides, ben ça reste en panne. Puis le violon. ah oui, ah, c'est difficile.
Et là, les airs que vous jouiez, c'était quoi exactement? C'était des... Parce que vous, vous avez tout appris de routine, vous connaissez pas la musique.
Ah non, non, ah. Non, non, pas. Des fois, Paul me dit, tiens, ça c'est une voix, ça c'est une blanche, c'est une ronde, c'est une pause, un octave. Bon. Ah. Non, non. Mais oui, puis, il me dit, quand ça fait ça dessus, comme un trait, une règle, un, que ça plie comme ça, ben, il me dit, ça c'est un silence ici, il faut ralentir. Ben, ça, j'y comprends ça. Il faut ralentir, c'est pas sa musique. Il faut, y a des endroits qu'il faut aller doucement, comme des fois qu'il faut faire vite. Oui, il faut faire vite.
Et donc, vous, avez, vous jouez, quelles airs vous jouez? Des gens, les airs que
je joue. Les mêmes, je joue là.
Ah ouais.
Ça change pas.
C'est les airs des routiniers.
Ah, bah, oui, 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 que j'ai entendu, je les joue comme j'ai entendu, c'est... J'en joue de toi au père Badinet que je joue. Et ben, je les joue comme le père Badinet les jouait. Tu vois, il y a bien joué ici. Puis, je regardais ben aussi poser les doigts. Ah oui, je regardais. Puis, j'avais la fin, le petit tour lourd, pas pareil. Ah oui. C'est ce que j'ai vu. Le, plus jouer souvent, le père Badinet venait souvent chez nous, pas ce même qui venait pas. Puis, j'avais la fin.
Et vous avez appris des airs de, d'autres musiciens encore?
José Raffin, puis le père Badinet, puis Maurice Michelet.
Ah oui?
Mais un peu, mais je n'ai pas beaucoup vu jouer, hein, ah. Maurice Michelet. J'avais fait jouer chez moi quand il venait. Ah oui?
Ah, parce qu'il venait chez vous, Maurice Michelet?
Ah oui, oui, ah, ben, oui. Je faisais jouer, tu sais, jouer fort, hein. Je joue fort, mais encore pas si fort, je jouais fort, hein. Il jouait juste. Hein.
Et il avait un bon coup d'archet aussi, lui.
Oh oui, puis il tenait l'air. Hein. Ah. Et tu vois ce que c'est, il y en a une qui jouait. Puis le père Badinet l'a joué aussi parce que je l'ai appris sur le père Badinet. Ben. Même le père Badinet, il tenait pas l'air comme moi. Hein. Ah oui. Et puis Marie Michelet, ben, je lui avais entendu jouer celle-là que je joue. Il va sur la troisième corde. Ah. Dors vite, mon gars. Adore-toi, mon amour. Ben, j'ai entendu jouer au café La Baloisia, à Maurice Michelet, mais tu n'es pas l'air.
Parce que pour écouter les airs que jouaient les autres, vous alliez dans les cafés ou
ah ben,
comment ça se passait?
Ouais. Ah ben oui, que ici tout là, parce que j'ai bien vu jouer. Oui, j'ai bien vu jouer Arthur Gréard. Arthur Gréard, je l'ai vu jouer un coup au café. Café Busseau, dans le moment, il n'existe pas. Qui jouait avec Gustave Michelet, parce que Gustave Michelet était violoniste aussi, il jouait du violon aussi, mais il jouait pas si bien que Marius. Il n'avait rien à côté de Marius, son frère. C'est pas ça que Marius Michelet jouait fort. Hein.
Et là, vous, quand vous alliez dans les cafés comme ça, c'est, les autres ils jouaient du violon.
Et
c'est là que vous appreniez. Les
airs, ben, ou... oui, c'est là que j'apprenais leur danse. Ah. Ah, oui. La fois que je les entends jouer, j'arrivais à les savoir. Ah, oui. Tu vois bien. Puis j'ai bien vu jouer des choses. Comment dire ça? Où est-ce qu'il a piqué par là de morge? Oui, les caillons de morge par là. Ah, oui, les caillons de morge, oui. Oui, c'était deux frères qui jouaient, qui étaient violonistes, qui jouaient du violon. Oui, je les ai vus jouer. Je les ai vus jouer chez Gaston Gué.
Comment ils s'appelaient?
Des caillons, c'est des caillons.
Oui. De Morge?
Hein?
De Morge?
Oui, oui. Pas de Morge, la Pérouse.
Ah, oui.
Oui, la...
Bugnot?
Ah, oui, c'est ça, Bugnot, oui.
Et
Roi? Oui, c'était... Les Bugnot de la Pérouse, je me trompe, tu vois, pas des caillons, des Bugnot de la Pérouse. Ben, je les ai vus jouer, il était deux violonistes.
Ah, ils jouaient deux violons?
Oui, oui.
Ah oui.
Ah oui, et puis ils jouaient, je ne me rappelle pas, ils jouaient celle-là. Oui, puis après, puis pour cette fête-là, ben, tu vois, il y avait arrivé Loriot, qui jouait pas mal du violon, qui ne croyait pas une merde. Avec Léon Béret, ils ont essayé de jouer. Ils ont joué celle-là. Là, ils jouaient, ben, mais quand ça a été pour y jouer dans l'aigu, ils n'ont pas pu. Ils ont joué autrement, je ne sais pas comment ils y ont joué, mais ils n'ont pas pu les, ils n'ont pas pu jouer les notes dans l'aigu. Ah oui, ça c'est comment j'ai joué, ben, puis le père Badinet, ils jouaient bien dans l'aigu. Ah oui, ils jouaient bien, mais... Et...
Ça, vous, parce que là, c'était, ça se passait à Loisia, tout ça, ce que vous venez de
raconter. Ah oui, oui, là. Oui.
Et est-ce que vous alliez du côté de la mare aussi pour écouter les autres
Ah ben oui, je m'y trouvais. Quand, quand c'était la fête à la mare, ben, j'allais. Il y a des fois que c'était Loriot avec Henri Garamis. Ils jouaient du violon, tous les deux.
Ah oui, ils jouaient ensemble.
Ah oui, ils jouaient ensemble tous les deux. Ça accordait bien, t'es habitué. Hein. Joseph Averge, pour le fait que Joseph Averge jouait mieux que c'était pas le même coup d'archer. Puis Tenerel avait un sacré coup d'archer, pas Averge de gravelure. Mais sur la fin, c'était 10 ans avant qu'il soit mort, il ne pouvait plus rien jouer.
Et vous alliez. Alors, vous avez appris des airs, des rengaines aussi avec ceux de la mare.
Oui, car.
Je voyais mon frère qui jouait du violon. Bah, j'avais appris un peu. Puis j'allais voir les balles. J'avais des instruments qui ne faisaient plus de bruit. Ça me disait quelque chose. J'étais passionné pour ces instruments. Alors, à 14 ans, je faisais des flûtes, des pipeaux, avec du sureau. Je m'étais appris à jouer comme ça.
Ah oui.
Et je l'ai réussi, c'est pas toujours. Je faisais des trous avec un couteau, ça dépend l'écartement. Alors, il y a des fois qu'elle était fausse. Alors, j'écoutais à l'oreille. C'était pas juste, ben, je l'ai redonné à des copains, où je les vendais 20 sous. Puis, quand elles allaient bien, je les gardais le plus longtemps possible, mais en les portant dans ma poche, j'en ai pas de se vendre. J'en refaisais. Et 2 ans après, je voulais acheter une clarinette. Seulement, les parents ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Alors, c'est bon. Il y avait un routinier à Saint-Julien-sur-Sûre. Un homme Eugène Brun, il me dit, ben tu viendras chez moi, je te vends une clarinette. Alors il m'avait vendu une petite clarinette qu'il avait rapportée de la guerre de 14. Une petite clarinette qu'il avait achetée en Allemagne.
Oui, mais avant vous n'êtes pas allé, vous m'aviez dit là que vous étiez allé voir des gens chez eux, parce que des gens dans...
Ah oui, avec... Avec mon père, on était allé voir dans des maisons qui avaient des clarinettes.
Ah oui.
Et en principe, elles étaient en bouillie. Mais ces maisons-là, ils ne voulaient pas les vendre parce qu'elles appartenaient à leurs enfants ou beaux-frères ou frères qui ont été tués pendant la guerre de 14. C'était 3-4 bouts de bois à manger l'un dans l'autre, qui étaient dans un tiroir, mais ils ne voulaient pas y vendre, parce que c'était des souvenirs. Alors, de maison en maison, j'avais toujours rien. Puis j'avais trouvé ce nommé Brun qui jouait un bal. Je dis, qu'est-ce que vous cherchez? Ben, ma foi, clarinette. Là, tu viendras chez moi, je te vends une clarinette. Alors, j'avais 16 ans. Je m'avais vendu cette clarinette, je partais en chant, puis je jouais de routine, comme ça.
Et c'est la première sur laquelle vous avez joué ça?
Oui, c'est la première, une petite clarinette en nut.
Une en ébène ou en buis?
En ébène. Oui, oh, il était en bon état. Seulement, lui, qui était rentré de la guerre de 14, il avait acheté une clarinette moderne. Quoique n'étant pas musicien, il jouait de routine sur une clarinette moderne, une Buffet Crampon, clarinette de prix. Alors il me dit, moi je ne vais pas t'apprendre la musique parce que j'y connais rien, il jouait de routine. Alors j'ai joué 3 ans comme ça, Nelly Conscrit, Les Masques, j'ai même fait quelques petits bals.
Oui. Et là,
j'ai même fait une noce.
Et
après ça, ben, je me suis placé avec une de mes sœurs du côté de Lyon. Alors là-bas, il y avait une société de musique. Alors je regardais jouer les autres.
Et c'était en quelle année, ça, que vous êtes allé à Lyon ?
En 29.
En 1929. Et avant d'aller à Lyon, vous avez joué de routine ?
J'ai joué de routine, oui.
Et quelles heures vous jouiez sur la clarinette ?
N'importe. Ce qui était moderne à l'époque.
Et par exemple, les airs de Jeanne Brun, vous les jouiez sur la...
Ah oui. Je les regardais quand j'allais aux fêtes, comme ça. Je les regardais faire comme il me dit, tiens, je mets mes doigts. Il me dit, je ne vais pas t'apprendre la musique, je ne la connais pas. Alors je jouais ces rengaines.
Ouais.
Puis, je jouais ce qui était moderne. Seulement, j'y jouais de tête, avec certainement quelques fausses notes.
Ouais.
C'est obligé.
Et là, dans votre vie, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous étiez domestique ? Vous étiez placé dans des fermes ou...
Oui. En 26, 27, j'étais domestique de ferme, à Loisia.
Ah oui.
Et en 28, j'étais domestique à Morval, dans une ferme. J'étais demandé pour faire une fête. Ben, les patrons, il y a des fois qu'ils me laissaient aller. Et puis, pourvu que ça le matin pour travailler.
Et là, c'est. Quand vous étiez dans les différentes fermes, vous jouiez déjà de la clarinette ?
Ah oui. Mais il y a souvent que le patron disait, ben, allez, viens racler l'écurie.
Ouais.
Toujours une autre fois. Jouer le dimanche, en ça, comme ça.
Ouais. Et là, vous jouiez à quelles occasions vous jouiez
pour... J'ai mené les conscrits pendant 7 ans.
Ah oui. Avant d'être allé à Lyon, tout ça.
Après. Alors là-bas, à Saint-Didier-Mont-d'Or, travaillait dans une usine. On était une douzaine. Ben, il y avait deux musiciens. Un qui jouait de la flûte. Puis un qui jouait du bugle. Alors celui qui jouait du bugle a fréquenté ma soeur, puis ils sont mariés. Alors ils m'ont emmené au solfège. Mais j'étais un an, je ne comprenais rien du tout. Pas tant haut, pas tant bas. Ça fait que... Il y en avait un qui prenait pension avec moi, couché dans la même chambre. Il était déjà musicien. Alors il m'expliquait. Alors à force de m'expliquer... Ben, j'arrivais à comprendre quelque chose. Puis il m'avait enlevé la clarinette, il m'avait donné un saxophone. Puis j'essayais de jouer de routine, puis j'y arrivais pas. Alors, j'ai étudié, on m'a expliqué. Mais c'est au bout d'un an que j'ai commencé à comprendre. Alors là j'arrivais à jouer avec les musiciens.
Et là, vous avez appris le solfège là-bas, alors
Là-bas, oui.
J'ai appris. Et vous êtes resté longtemps à Lyon?
Ben, j'ai resté 18 mois, je suis parti au régiment. Quand je suis rentré du régiment, je suis retourné. Ma soeur était mariée avec un jardinier. Ma soeur est morte d'un accident. Alors le temps m'a duré, mon beau-frère est parti. Je suis revenu et je me suis placé dans une petite usine à Cousances. Alors à Cousances, il y avait une bonne société de musique. J'étais récupéré là-bas.
Et c'était en quelle année, ça ? Quand vous êtes revenu à Cousances, c'était en quelle année ?
En 36.
Ah,
en 36. Oui.
Et là, vous êtes donc allé à la société de Cousances pour...
Mais j'ai fait une bêtise quand je suis parti au régiment, parce que j'étais à Lançonnier. Alors, on voulait m'envoyer dans la musique à Besançon. Puis j'ai pas voulu aller, je m'en suis regretté. Ah oui. Puisque là-bas, ben, j'ai vu mes collègues qui étaient sous les platanes, tranquilles. Ben, puis nous, on faisait les manœuvres, sac au dos, la capote. Ah oui, ben, je m'en suis regretté.
Vous avez fait votre régiment, vous ?
À Lançonnier, caserne Michel. Alors, il n'y avait pas de musique à Lançonnier. Il y avait une clique, c'est tout. Il y avait une clique, mais il n'y avait pas de musique. Hein. Ça fait que j'ai perdu mon temps. Alors, quand je suis rentré, je suis reparti à Saint-Didier. L'usine avait fermé. Alors, ma soeur s'est mariée avec un jardinier. Et puis, elle est morte d'un accident. Alors, moi, je suis rentré, le temps m'a duré, puis je me suis placé à Cousances. Alors, à Cousances, j'ai été récupéré par la société de musique. Alors, là-bas, j'ai fait 17 ans. À la clarinette.
À la société de musique de Cousances, vous avez joué 17 ans ?
17 ans.
Ah, oui.
Et là, à un moment donné, la musique a été dissoute.
Ah oui.
Parce que les événements de la guerre, le chef de musique était un peu tendancieux du côté de la collaboration. Il a été condamné à 5 ans d'indignité nationale. Alors la musique avait tombé. Ah oui. Alors cette société a été reformée en 50. On était 13. Alors, le directeur, l'organisateur de la société de musique, il me dit, des saxophones, j'en ai 3. J'ai pas de clarinette. Je suis tout seul. Alors, toi, tu vas jouer de la clarinette, on va te donner une clarinette. Alors, comme j'avais plus de clarinette, je jouais du saxo. Les balles, c'était moderne, pendant la guerre. Alors, j'avais racheté une clarinette. Et je suis mis à jouer de la clarinette, puis j'y joue incessamment. Le saxo, je laisse tomber, parce que je vais dans les clubs. Des vieux, ils veulent pas le saxo, ils veulent la clarinette. Voilà, le rythme bressant. Ils en tiennent danse, d'autres fois.
Mais justement, là... Pourquoi vous avez choisi de jouer de la clarinette? Parce qu'il y en avait d'autres qui en jouaient dans le pays, de la clarinette, là.
Ben, c'est-à-dire que, premièrement, la clarinette est plus difficile à jouer que le saxophone. C'est pas le même doigté. Ouais. On trouvera plus de saxophones que de clarinettistes. Puis maintenant, quand on a joué sur un pendant un certain temps, quand on reprend l'autre, n'étant pas même planté, ça trompe. Comme disait notre chef, vous voulez jouer de tout, et on vous donne une partition, vous n'êtes pas capable de la jouer. Ben, jouez dans un instrument, mais jouez donc comme il faut.
Et là, pourquoi, quand vous étiez petit, ça vous est venu de jouer de la clarinette? Pourquoi vous avez eu envie de jouer de la clarinette?
Ben, j'ai apporté ça, en venant au monde. J'ai apporté ça, c'est venu dans l'instinct. C'est venu... comme ça.
C'est des dons.
J'avais un frère qui avait une clarinette, qui avait un violon. Il n'a jamais rien pu jouer. Le père non plus.
Et votre père, il était d'accord que vous jouiez de la clarinette?
Sûrement, oui, d'accord. Sûrement, mais il n'avait pas d'argent pour acheter une clarinette. 500 francs en 28, une clarinette. Le père me dit, oh ben, il a fait un saut. Oh ben non, t'as acheté un taureau, qui fait. Oh ben non, il dit, vous rendrez pas ce madame, je peux pas. Ça fait que j'ai reposé l'instrument avec les larmes aux yeux, puis je suis revenu. Ouais. Personne n'en avait acheté une simple. Je jouais avec, mais c'était pas ça.
Ouais.
Et la reste à l'harmonie à Cousances, ils n'ont pas pu s'en servir.
C'est celle de Jeanne Brun, là, que vous aviez, la simple dont vous parlez?
Oh, là, elle est bien, celle-là.
Mais parce que vous dites que vous en avez acheté une simple...
Ah ben, c'était pas une simple, mais une ancienne, tout à fait ancienne. Elle était...
Elle est en buis, non?
Elle était en... Comme la tienne. Comme la tienne, elle était. Pas en buis, non. Elle était comme la tienne. C'était de la cajou.
Ah oui.
Puis elle n'était pas juste. Elle tenait pas l'air.
C'est la première clarinette que vous aviez eue, ça?
Oh non. Non, la première clarinette, elle était une petite clarinette, elle était en ut. Non, ouais. Non, j'avais racheté celle-là dans un magasin, mais je l'avais acheté d'occasion, mais j'en avais pour les sous.
Non, non. Parce que vous avez...
Elle a été refusée à l'harmonie, parce qu'elle n'était pas juste.
Elle est fausse.
Oui, elle était fausse. Oui.
Vous avez joué sur des clarinettes en buis, vous?
Oh oui, à Loisia, oui. Oui, à Loisia. Ah ben, elle sonnait bien, les clarinettes en buis. Seulement, c'était des clarinettes simples. J'en ai pas vu des.
Et parce que Aloisia, c'est. On vous l'avait prêté ou.
On l'avait prêté, oui. Puis Gabriel en avait une. Il l'avait trouvée, oui.
Et là, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette clarinette, vous l'avez pas.
Ouais, c'est parce qu'il a passé la vie, il doit l'avoir joué en vie, mais.
Ah oui. Je sais
pas. Ah. Là, il n'a jamais rien pu sortir de ça. Il pouvait passer par le marié.
Et là, donc, quand vous êtes revenu à Cousance, là, est-ce que vous faisiez des. Est-ce que vous sortiez pour jouer. Est-ce que vous faisiez des balles, est-ce que vous faisiez des noces quand vous étiez en même temps que la part de Cousance.
Ben, c'est-à-dire, oui, j'ai fait des fêtes. Ah, oui. Mais comme on travaillait à l'époque, à cette époque-là, avant les lois sociales, on faisait 10 heures à l'usine, du lundi au samedi. Alors le dimanche, je faisais le bal, mais je ne dormais pas. Je rentrais, je repartais pour rentrer à l'usine. Le contremaître me disait, tonnerre de Dieu, Lambert, ça va t'y aller, t'as encore passé la nuit. Ah oui. Puis je travaillais sur une toupie, c'était pas le moment de m'endormir.
Et là, vous alliez jouer, vous jouiez à quelles occasions? Alors, pour des noces?
Ah, pour des balles de fête.
Ah, des balles de fête. Et vous jouiez tout seul ou?
Oh non, avec un accordéoniste.
Ah oui. Vous jouiez, c'était qui l'accordéoniste là?
Ben, j'ai eu 8 ans. Henri 8 ans. Des Chayas. Un musicien.
Et vous avez joué avec.
Et j'avais dressé un nommé Raffin, un jeune, que. Au début, ma foi, c'était pas. Mais il s'était mis, je pouvais accompagner.
C'était Raoul Raffin.
Oui, oui. Ouais. Il jouait les notes. Alors je pouvais, il jouait comme Pauli. Alors je pouvais suivre avec Pauli, moi. Toutes ces chansons, j'ai bien joué avec lui une fois qu'Henri était venu. Henri était parti au travers dans de l'eau à la courir la patatine. J'avais joué pas mal avec eux. Il t'a bien dit Pauli.
Et là.
Une fois j'avais oublié un jazz, il y a bien vu.
Pauli.
Hein. Oh oui, il me dit, oh mais t'as oublié. Ben, je dis, peut-être bien. Il dit. Tu y écris tellement mal, je ne sais pas si c'est un bécard ou. Parce que le bécard, il efface tout. Il remet la note dans son état naturel.
Et là, vous avez donc joué les balles de fête. Vous avez.
Ah oui, beaucoup de balles de fête. Et ça m'est arrivé deux fois. D'être demandé pour une noce, je passais la nuit à la noce et le lendemain, j'allais encore jouer une fête.
Ah oui.
Je passais deux nuits.
Vous gagnez. Gagner de l'argent là avec ça?
Ah ben certainement.
Ah oui.
Avant je faisais payer. Ouais. Ah oui.
Et on vous payait combien là?
Mais ça m'arrivait de jouer avec des routiniers qui n'avaient pas moyen de s'accorder. Ouais. Ça fait qu'on jouait chacun notre partition.
Ouais.
En principe au saxophone, la clarinette aussi. Ça.
Et là on vous payait combien là dans le moment pour. Quand vous faisiez un bal comme ça, vous perceviez combien?
Ah ben c'est nous qu'on faisait le prix. Alors. On demandait, parce qu'on jouait la fête, on jouait leur tour.
Ah oui.
Ah oui.
Et là, vous demandiez combien alors?
200 francs.
Ah oui. Et sur quoi vous basiez pour demander 200 francs?
Ben, on se basait pour les deux coups. Les deux dimanches. Et on commençait à jouer à la tombée de la nuit, en superchange. Et ça allait jusqu'au matin. Et le lundi, on remettait encore ça un peu le soir.
Ah oui.
C'est ça, pas comme maintenant. Maintenant, les musiciens, ils arrivent à 9h du soir, à 2h du matin, puis bagage. Et hop, combien qu'on vous doit? 200 000. Ça n'existait pas, ça. Nous, on était payés par le patron du café. Alors, il faisait payer une petite entrée. Et après minuit, ben, il levait l'entrée du bal. On dansait dans les salles.
Et là,
ou dans les granges, beaucoup dans les granges. Alors là, à ce moment-là, ça rentrait à plein porte. Parce qu'on avait levé les vues, rentrer, puis parce que ça ne payait plus.
Et là, on payait déjà plus la danse.
Et quand on allait, quand on allait jouer les noces, ben, c'est le garçon d'honneur qui payait le musicien.
Ah oui. Ah oui, justement, là, pour les noces, donc... attendez, on va finir avec les balles, parce que on passera aux noces après. Je voulais vous demander, pour les balles, vous jouiez quels airs pour vous faire danser? C'était quoi comme danse
Ben, je les danse qu'on joue maintenant.
Comme celle d'Henri, que vous jouez avec Henri
Oui, oui, oui. Ah, oui. Celui qui savait des danses modernes, ben, je jouais des danses modernes. Ouais. Maintenant, celui qui était musicien, je jouais par partition de musique. Moi, après, on a joué la Java de la route. On a joué encore Mélanie. C'était une valse, mais en musique, une partition de musique.
Vous jouiez des airs en musique, mais est-ce que vous en jouiez en routine aussi? Des airs sans partition. Vous en jouiez
Ah ben, quand on y savait par cœur, on a joué d'Yvette Auder, Fête des Alpes.
Mais est-ce que vous jouiez des... Est-ce que vous jouiez des...
Henri, jouait pas bien. Qu'est-ce qu'il jouait bien? J'étais pas habitué, mais puis l'accompagnait bien, jouait bien. Puis évidemment, comme cadence, il n'aurait pas eu la cadence au petit cul-là. Mais le petit cul-là, tu peux pas accompagner, il faut y savoir de
tête. Mais je voulais vous demander, là... Est-ce que vous jouiez des fois avec un joueur de violon pour les balles comme ça?
Non.
Vous avez jamais joué, par exemple, pour faire un bal, vous avez jamais joué avec Henri?
Non, parce que dans le moment, il n'était pas capable.
Ah oui.
Ah, mais maintenant, attention, c'est que il faut tout mettre l'accordéon un peu. Et une femme qui est venue le féliciter là-bas avant de s'en aller. Puis tu l'entends.
Ah oui, mais. Et vous avez. Donc vous jouiez pas avec votre frère, ça, pour faire des balles?
Ah ben non, on ne pouvait pas, non. Puis ça avait tombé, ces rengaines, ça avait tombé, ça revient maintenant, parce qu'on traite des machins folklore, quoi.
Et là, c'était de quelle année à quelle année à peu près que vous jouiez?
Ah ben non, on jouait déjà des machins modernes.
Ah oui.
Parce que les routiniers, en 1935, ça tout était pas, ça a été tout mis de côté.
Ah oui.
C'est fini. Et l'accordéon, qui avait fait son ampleur, l'accordéon, à ce moment-là, les accordéons diatoniques ont tombé.
Ah oui.
En 34, en 35, les routiniers étaient terminés. Alors, il y avait déjà les accordéonistes qui connaissaient la musique, pour jouer sur l'accordéon chromatique. Alors, il fallait des musiciens pour accompagner. Moi, j'ai joué parce que je pouvais m'accompagner. En musique. Alors, les routiniers ne pouvaient pas. Alors, les routiniers, ils achetaient leur instrument. Ils étaient deux qui allaient jouer, des fois trois. S'ils avaient un instrument en ut, ils mettaient une accordéon en ut, une clarinette en ut. Puis il jouait. Si y en avait un qui avait une clarinette en si bémol, ben l'autre il commandait son accordéon. On ne rappelle pas où déjà.
En Corrèze, non?
Oui, en Corrèze. Ben il a commandé en si bémol. Dans le même temps, je vais toujours pareil. En tant que musicien, nous, on s'adapte.
Ouais.
Avec les partitions, elles sont écrites pour.
Et là, vous avez joué jusqu'en quelle année pour les balles?
Oh, jusqu'en 55.
Ah oui.
Mais après ça, ils ont emmené des danses plus modernes, cha-cha-cha par là, swing. Alors, j'avais pas d'accordéoniste pour faire ce système-là, puis moi, ça me plaisait pas. Alors, j'avais arrêté. J'avais arrêté, puis après ça, ben, j'ai toujours parti de l'harmonie de Cousance. Alors, cette harmonie à Cousance, elle a été dissoute en 68. Elle a été dissoute, puis après ça, puis éloignée. J'ai été demandé à Lons, j'ai été demandé à Saint-Amour. Alors, c'est fini.
Et là pour
maintenant, on a monté des clubs pour les vieux de la soixantaine. Alors, participe dans ces clubs. Je suis demandé.
Je voulais vous demander pour les noces, avant qu'on parle des clubs de troisième âge, pour les noces, comment ça se passait quand vous faisiez une noce vous?
Ben, quand on faisait une noce, on mettait un ruban sur la clarinette qui pendait au moins 50 cm. On allait devant. devant la noce.
Et là, vous jouiez quelle sorte d'air?
Oh, ben, on jouait des chansons de noces.
Par exemple, il y avait quoi comme chanson?
Ben, comme chanson, il y avait « Adieu la fleur de ma jeunesse ». C'est une chanson de noces. Il y avait encore... je ne me rappelle pas du titre. Je ne vais pas me revenir, hein, c'est l'air, puis... Ah oui. Et quand on jouait les conscrits, on jouait des chansons de conscrits.
Ah oui.
Ah oui. Et là, on jouait Virginie les larmes aux yeux. Ah. Ou ben.
Et on vous payait pour faire les conscrits aussi?
Ah ben j'avais certainement.
Ah oui. Et c'était en quelle année que vous avez joué les conscrits?
On jouait les conscrits de Morval ou ben...
Par ton brave oui. Jurassien,
oui.
Là,
non? Conscrits. Gaiement nos cœurs, calmez-vous tout d'un, qui déchire votre cœur.
Et c'est en quelle année ça que vous avez mené les conscrits,
vous? Ah, mais j'ai commencé à mener les conscrits, j'avais 16 ans. J'ai mené jusqu'à 23 ans. J'avais 23.
Ah oui.
Et j'étais demandé plus tard, j'avais même 45 ans.
Ah oui, pour mener les conscrits?
Mener les conscrits, oui. Dans la région, oui.
C'est dans quel village vous alliez pour mener les conscrits?
Oh ben en Brest, ça durait 15 jours.
Ah oui. Mais vous alliez dans quel village pour...
Mais j'ai pas voulu aller en Brest. J'ai été demandé une fois. On m'avait marchandé, j'avais demandé 10 000, on m'a offert 8 000. Ça faisait 10 à 15 au-dessous de zéro, j'ai pas voulu aller.
Ah, oui.
Allez trouver un jeune. Trouvez un jeune, moi je vais pas aller.
Ah, oui. Et c'était... Vous alliez jouer dans quel village, là, dans le coin? C'était Loisia?
Ah, ben, on tenait le village, on tenait toutes les maisons, il y avait des filles.
Loisia,
à Christiane, on tenait la commune, on n'allait pas dans les autres pays, non, on tenait la commune. On n'allait pas dans une commune voisine.
C'était Loisia, alors?
Loisia, oui. Ah, oui. Alors, Loisia, il y avait Champagne, il y avait le bois du bas, il y avait les caras. On avait pour deux, trois jours. Ah, oui, oui.
Ah, oui. Et là, vous les avez menés pendant 7 ans, alors?
Et quand on jouait encore pour les mois de mai, à l'époque, les jeunes coupaient des charmilles, qui mettaient devant les... où il y avait des filles.
Ah, oui.
Alors le dimanche après, ben, on y arrosait, alors il y avait la clarinette, ou bien le violon, ou bien l'accordéon, on prenait un musicien.
Voilà. Et
quand c'était carnaval, ben, il y en a un qui portait la bouille pour le vin, l'autre portait le panier pour les œufs, puis l'autre la tirelire. Alors il y avait toujours un musicien qui allait.
Et vous avez mené les masques, vous?
Ah oui, 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 j'ai tout fait.
Et c'était pendant que vous étiez domestique ou c'est après?
Ah ben, j'ai bien fait étant domestique, mais il fallait la permission des patrons.
Ah oui, et ça vous permettait de gagner un peu d'argent quand même?
Oh ben, quand c'était les masques, c'était... Oh non, 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 c'était pour l'ensemble.
Ah oui, on vous payait pas pour les masques alors?
Oh, que si. Si, mais on ne demandait pas beaucoup. Si, si. Ah, on demandait à un musicien, on le payait, ça.
Vous jouiez seul pour les masques?
Ah, oui, 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 oui.
Et vous jouiez...
Les noces, on a été deux, quelquefois, mais pas souvent.
Ah, oui,
mais la dernière noce que j'ai faite, c'est en 48, l'année que mon père est mort. Eh ben, j'ai pas voulu faire le bal tout seul. J'ai demandé à un accordéoniste le soir pour me donner la main. Au saxophone.
Alors on pourrait parler un petit peu plus en détail des noces que vous faisiez, parce que quand vous faisiez une noce, ça se passait comment alors? Vous pouvez expliquer comment ça se déroulait, une noce, pour le musicien?
Ben, c'est-à-dire le musicien, autrefois, on prenait pas des artistes, des fois c'était des petits musiciens qui faisaient à peine danser, mais c'était des rigolos.
Ah,
qui
oui.
Chantait, puis qui racontait des histoires.
Et vous?
Moi, je ne suis pas chanteur. Seulement, je connais des monologues.
Oui, justement, c'est ça que je voudrais que vous expliquiez un petit peu plus, là, les monologues, parce que...
Je connaissais des monologues et des blagues.
Oui, oui.
Puis, ça dépend, je trouve. Si c'est un banquet de conscrits, ou ben un banquet de pompiers, ou ben un banquet de chasseurs, on peut dire des choses assez grossières.
Ouais.
Mais si c'est une noce, moi Gégène m'avait dit une fois à Rotalier, taisez-vous, on ne vous a pas demandé ça, hein, quand il a fait sa prédication. Il a fait sa prédication de curé. Ça ne leur a pas plu. Même moi, je l'ai fait. C'est Georges Lannou à Chrétien, le gros là qui vient me voir, puisque j'ai joué sa note. Eh bien, c'est une famille de curés. Mmh. Je me suis déguisé, j'ai bien rigolé.
Et pendant les noces, est-ce que vous disiez des monologues?
Ah ben ça c'est sûr.
Ah oui. Et
ah,
vous racontiez des blagues pendant le repas alors?
Racontez des blagues.
C'était pendant
une fois, je faisais une noce à Cousance. Et puis, c'était sur une coiffeuse. Puis, évidemment, je m'étais déguisé en curé. Alors, j'avais bien trouvé ce qu'il fallait parce qu'il y avait un surplis.
Ah oui.
Un peignoir. Alors, j'étais caché, puis j'étais revenu. Alors, ça avait amusé la société, quoi. Et je disais des blagues, mais un peu modérées parce que j'osais pas, quand on ne connaît pas. Est-ce qu'il n'est pas venu un capitaine de la résistance qui les sortait au bain des belles? Quand j'ai vu ça, je ne me suis pas retenu.
C'était pendant le repas de la noce ou c'était pendant le bal que vous racontiez les monologues?
Non, pas au bal.
C'était pas au bal, c'était au bal. Pendant le repas alors.
C'était pas pendant le repas.
Et là, les monologues, vous les aviez appris comment? Comment est-ce que ça se passait là?
On me les a appris.
On les a appris.
Il y a le routinier Jeanne Brun Saint-Julien, il m'en a appris deux.
Ah, ouais.
Il m'a appris les pompiers, c'est lui qui m'a appris les pompiers. Et puis un sermon, c'est lui qui m'a appris.
Et là, comment ça se passait? Vous alliez chez lui pour les apprendre ou comment ça se passait?
J'avais été chez lui en 45. J'avais été chez lui, le trouver. Puis comme il faisait les souliers, mais c'était pas arrêté. Il tapait sur la semelle, puis il dictait.